Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Il tutoie les profondeurs marines, se fond dans les abysses, et c'est dans cette communion avec les éléments marins que notre invité puise sa force et sa détermination. Double champion du monde d'apnée, avec un premier record établi à moins 87 mètres en 2002 et descendu à moins 139 mètres malgré lui le 10 septembre 2015 au risque de sa vie, Guillaume Néry a participé au développement de cette discipline en France et à sa notoriété. Fasciné par l'océan et en totale symbiose avec cet univers encore très méconnu, il contribue à le faire connaître et à le défendre grâce notamment aux films et aux clips réalisés avec sa compagne Julie Gauthier. Dans cette aventure, sa vidéo Free Fall fut une révélation et le début de son engagement artistique. Bonjour Guillaume Néry.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Culture, auteur avec Franck Séguin du livre Guillaume Néry à plein souffle, paru chez Glénat. Livre avec des photos à couper le souffle et à signaler également la sortie de votre film One Breath Around the World, un film réalisé avec Julie Gauthier. La voix est libre aujourd'hui avec vous pour entrer en immersion dans ce monde des profondeurs, comprendre vos ressorts et cette part d'énergie que vous consacrez à défendre la nature, à préserver l'océan et à nous faire aussi vivre au plus près cette relation nécessaire entre l'homme et l'univers aquatique. Et en seconde partie d'émission, un invité surprise nous rejoindra pour croiser la parole avec vous et poursuivre cette plongée dans les mystères de l'océan. Bienvenue à tous dans cette émission en partenariat avec le service Planète Sciences du Monde, émission préparée comme d'habitude par Anaï Morales avec la complicité de Anne Gouzon, Caroline Chaussée, Vanessa Chang, réalisée toujours par Alexandra Malka avec à la technique aujourd'hui Ludovic Auger.
Comme quelqu'un qui revient de loin. C'était excellent, j'étais concentré tout du long, il faut rester concentré. Mais c'était pas évident quand même, parce que c'est un peu plus stressant, c'était super. J'ai pensé qu'en surface, c'était quand même pas mal mouvementé, mais que des choses positives. C'était grandiose, des super sensations. Tout le temps, je savais pas si j'allais toucher le fond, sauf quelques secondes avant. Et pendant la descente, vers la fin, je sais que ça va aller.
C'était la voix de Loïc Leferme sur France Inter le 31 octobre 2004, au moment où il bat son record de plongée en apnée nos limites à Villefranche-sur-Mer. Depuis, Loïc Leferme, qui était un de vos amis proches, nous a quittés en 2007. Ce monde de l'apnée, Guillaume Néry, c'est celui de la solidarité et de la complicité.
C'est une communauté, c'est un vrai esprit de famille, je pense, qui est né de sa marginalité au départ. C'est-à-dire que les premiers apnéistes, après l'épopée Grand Bleu, étaient vus par l'ensemble des personnes comme des allumés, comme des suicidaires. Et donc c'était un peu compliqué de se développer, de rassembler les passionnés. Et la seule force, la seule énergie qui a permis à ce sport de grandir, c'était l'énergie humaine. Et donc, dès le départ, il y a eu vraiment un esprit de collaboration finalement qui a permis d'aller bien au-delà de toutes les barrières et de toutes les limites, et qui a fait que l'apnée aujourd'hui est ce qu'elle est, beaucoup plus développée, avec des clubs partout, un nombre de licenciés qui explose. Et donc, on doit beaucoup à cette énergie humaine.
Et donc, l'océan, devenu votre univers de prédilection, comme une évidence, c'était à quel moment ça? Parce que vous parlez du Grand Bleu, mais vous n'êtes pas génération Grand Bleu.
Quand le Grand Bleu est sorti, j'avais 6 ans. Donc non, je pense que j'étais encore un peu jeune pour être touché. J'ai grandi à Nice, donc au bord de la Méditerranée. Mais mes parents m'ont plutôt rapproché très 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 jeune du milieu de la montagne. Donc dès 4 ans, je faisais des randonnées qu'aujourd'hui encore certains adultes ont du mal à faire. Et on les prenait pour des fous à l'époque. Et donc ils m'ont donné ce goût des grands espaces.
Donc le Mercantour
Voilà, le Mercantour. On a sillonné vraiment le Mercantour. Et donc tous les week-ends, ils m'emmenaient crapahuter dans les sommets, dans les lacs, les forêts. Et c'est vrai que j'ai développé cette espèce d'amour pour l'élément naturel. Mais en étant un Niçois et en ayant grandi forcément au bord de l'eau, l'été, on va à la plage, c'est comme ça. Et donc, j'ai développé en même temps cette fascination aussi pour l'élément liquide, mais ça m'amenait une certaine crainte, il y avait quand même une forme de peur. Cette peur, elle s'est dissipée quand j'ai mis pour la première fois un masque et que j'ai commencé à m'aventurer, aller descendre, pas très profond, hein, mais juste quitter la surface et descendre à quelques mètres pour ramasser du sable, ramasser un coquillage. Je me rappelle que ça crée en moi un sentiment d'exploration, un sentiment d'aventure. J'allais dans une forme d'inconnu. Ça a commencé comme ça, tout doucement.
L'apnée, cette pratique-là, on peut dire que c'est venu pour vous comme une évidence le jour où vous avez vu Pellizzari dans un reportage d'Envoyé spécial ?
Complètement. Quelques semaines avant ce reportage, j'avais commencé à faire de l'apnée. C'était vraiment le vrai début, à l'extérieur, sous forme de défi. J'avais 14 ans et un adolescent avec un ego qui bouillonne. On se met tout un tas de défis et un jour, on s'est dit, bon, bah, allez, c'est parti, on va arrêter de respirer, on va voir qui est le meilleur. Et je me suis pris dans une espèce de jeu, une fascination de... Une transgression aussi, hein, d'arrêter de respirer, c'est contre nature. Et donc, j'ai découvert que j'avais des capacités. J'étais fasciné par cette idée qu'on pouvait explorer les limites du corps humain. Et comme par hasard, quelques semaines après, Envoyé spécial, un sujet qui présente Umberto Pellizzari. Et là, je me rappelle être complètement subjugué, parce que j'ai fait le lien. Je me suis dit, voilà, ce que arrêter de respirer dans un bus ou dans ton lit, c'est inutile, c'est une expérience, mais ça va pas plus loin. Et là, on peut la transformer et elle peut amener à aller découvrir un autre monde. Et en fait, c'est comme si toutes les pièces du puzzle s'étaient un peu rassemblées et là, ça a été une évidence. Et donc, j'ai cherché comment faire pour faire de l'apnée. À l'époque, Internet n'existait pas vraiment.
Oui, puis c'était une pratique sportive, mais qui était en devenir, quoi.
Qui n'était pas organisée. Alors, en cherchant un peu, je découvre qu'il y a un club d'apnée, miracle, en France. Et deuxième miracle, c'est chez moi, à Nice. Donc bon, bah, je décide de franchir le pas. C'est là où, avec la famille, avec les parents, ça a été un peu compliqué. Mais finalement,
parce que votre mère était prof de maths, votre père...
Ma mère, prof de maths, toute jeune retraitée, là, aujourd'hui. Et mon papa travaillait aussi dans un milieu hospitalier. Donc mon père aimait bien aller dans l'eau. On allait tous les deux. Il a jamais eu de phobie de l'eau. Mais par contre, pour ma mère, c'était le cauchemar. Elle a fait ses premières apnées, là, il y a quelques semaines, avec un masque, pour la première fois. Elle a vaincu ses peurs. Et donc pour elle, à l'époque, c'était vraiment... je pense que je ne pouvais pas trouver pire comme destinée que de choisir ce sport.
Ce sport et cette pratique sportive qui devient la vôtre, c'est aussi celle qui avait quand même déjà connu quelques grands noms, des noms qui ont commencé à en écrire l'histoire, comme Jacques Mayol. On l'écoute, voici ce qu'il disait dans l'émission sur France Inter, dans l'émission Antipode, le 28 janvier 1989.
Ce sont des secondes qui en fait n'existent plus. Je suis arrivé à vaincre ce qu'Einstein aurait pu qualifier de relativité du temps, le temps qui se contracte. En fait, le temps est fonction de notre affectivité. Eh bien, on arrive dans ce cas spécifique de la préparation à la plongée profonde à être quasiment hors du temps. Plus on descend profond, plus on a cette impression de détachement total de tout ce qu'on a appris jusque-là, de tous ces concepts, parfois erroné ou parfois strictement relatif, de certaines choses. Quand je pars, je ne suis pas un poisson sans sentiments, mais je vais au-delà des sentiments. C'est-à-dire, c'est là que le zen, les techniques zen m'ont aidé. Et c'est bizarre, parce que dans la vie courante, je suis un type tout à fait normal, embêtant, parfois casse-pied, agressif, etc., etc. Mais dès que je suis au contact de l'eau, dès que je suis avant mes plongées, je fais partie du vent, de la mer, des mouettes, je ne sais pas, je deviens autre chose.
Guillaume Néry, une réaction à ces propos de Jacques Mayol qui se dévoile aussi. Que procure concrètement l'apnée hein, comme rapport à soi justement et à l'environnement sous-marin ?
Ah bah je trouve qu'il a vraiment réussi à retranscrire avec beaucoup de justesse. C'est pas évident de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et c'était la grande force de Jacques Mayol, c'était d'arriver à faire passer ce ressenti que l'on peut avoir. Et effectivement, l'eau va transcender et va complètement modifier notre rapport au monde. Et c'est vraiment cette surface, elle fonctionne vraiment comme une frontière. Et quand on passe cette frontière, tout est bouleversé, tous les sens sont bouleversés et notre rapport au temps et à l'espace change. Et c'est pour ça que ça en fait à chaque fois, chaque immersion est une expérience qui va au-delà de la simple expérience physique. Et Jacques Mayol a toujours des références un peu spirituelles dans ses témoignages. Et je ne peux qu'aller dans son sens, ouais.
Mais c'est une discipline qui nécessite aussi une discipline de vie, des règles strictes et des techniques aussi hein, pour justement parvenir à obtenir cette apnée qui va vous permettre de devenir, enfin poisson avec les poissons, même si je sais que vous n'avez jamais rêvé ou d'être poisson ou d'être dauphin, mais c'est quelque chose qui s'apprend aussi.
Complètement. pour pouvoir vraiment vivre l'instant de grâce que l'on peut des fois ressentir sous l'eau, cette espèce d'état d'harmonie parfaite. Évidemment, il faut passer par beaucoup de travail, de répétition et de discipline. Donc c'est un travail sur le corps, avec des entraînements, tout ce qui est de plus fastidieux, qui peuvent ressembler à des entraînements de n'importe quel sportif de haut niveau, avec la petite composante quand même que il faut toujours veiller à ce que le corps reste très souple. Pour contrebalancer ces efforts du corps, ce travail physique qui va créer des muscles, qui va rigidifier finalement le corps, nous on a toujours en tête de rester malléable, rester souple. Donc il y a toujours des ponts qui se font entre le corps et le mental, parce qu'il faut rester souple dans la tête aussi, il faut rester adaptable. Le milieu aquatique, les profondeurs des océans, ça nous dépasse, c'est beaucoup plus fort que nous. Et donc le seul moyen de pouvoir s'y faire une place, c'est d'être dans l'acceptation. Donc l'acceptation mentale, que c'est un environnement qui est hostile et qui va nous déformer, va nous écraser, la pression est énorme. Et surtout accepter avec beaucoup d'humilité que l'on ne peut rien faire face à ça. Et que la seule chose qui est acceptée et acceptable, c'est de lâcher totalement prise et de nous laisser faire. Et donc du coup, ça se travaille aussi physiquement. Jacques Mayol a beaucoup parlé de yoga, notamment dans son approche. Et c'est vrai que ça fait partie des exercices que l'on pratique.
Et être aussi dans un rapport de biomimétisme avec ces mammifères marins. Parce qu'au fond, l'homme à l'origine vient de là. En tout cas, l'espèce, la vie vient de l'eau. Et qu'on a oublié, mais on avait ces capacités-là finalement, avant de voir ces espèces investir la Terre. C'est retrouver l'originel finalement.
Si on va très loin, c'est sûr que même dans la symbolique, la plongée, c'est une. On retourne dans les profondeurs de soi, dans les profondeurs de nos origines, et même on peut aller jusqu'à dire qu'on retrouve un peu les 9 premiers mois de notre vie où on est en immersion dans cette vie intra-utérine, et donc du coup il y a toute une symbolique du retour à l'essentiel, du retour aux sources. Et oui, effectivement, pour parler biomimétisme, pour essayer de devenir des meilleurs humains aquatiques, c'est toujours intéressant de s'inspirer.
On travaille avec des scientifiques justement.
J'ai travaillé avec des scientifiques pour surtout comprendre les mécanismes du corps humain, les adaptations qui se mettent en place. Il y a aussi un travail avec les scientifiques pour surveiller que ce que l'on fait reste raisonnable et que les adaptations se font bien et qu'on prend pas de risques avec notre santé. Mais il y a aussi beaucoup d'observations. D'observation du mouvement, quand on va regarder les mammifères marins, comment ils évoluent, quelles techniques ils peuvent utiliser. Il y a beaucoup d'inspiration de ce qui se passe dans la nature.
On dit que ce sont les otaries qui sont les championnes de l'apnée, c'est vrai?
Ça dépend si on doit parler de temps, de profondeur, mais parmi les animaux les plus profonds, on a les cachalots qui descendent entre 1500 et 2500 mètres de profondeur. Alors, j'ai appris très récemment qu'il y avait l'espèce, le mammifère marin qui descend le plus profond n'est pas le cachalot. Ce que j'ai cru depuis toujours, c'est une baleine assez rare qu'on appelle la baleine de Cuvier, qui serait le mammifère marin qui descend le plus profond. Je crois que c'est vraiment eux qui peuvent rester une heure et demie en apnée et aller dans des très très grandes profondeurs.
Alors cet océan, il est fascinant, il reste certainement le plus fascinant et le plus mystérieux pour les hommes, puisqu'on a une réelle méconnaissance de cet océan qui, rappelons-le, couvre 70% de la planète, qui relie les peuples. Vous citez dans votre livre intitulé « Profondeur », vous citez Thalès, « L'eau est le principal de toute chose ». Mais cette méconnaissance, à la fois, elle attire les hommes et puis elle inquiète. Concrètement, ces abysses-là, on dit que à une centaine de mètres, c'est noir. C'est véritablement noir. Qu'est-ce que vous voyez dans ces profondeurs-là?
Ça dépend où est-ce qu'on plonge. Tout est en lien avec la clarté de l'eau. Si je vais plonger dans un lac, au lac Léman, ou n'importe quel lac, qui sont assez chargés, la lumière a du mal à passer. Et dès 50 mètres, c'est quasiment le noir absolu. En Méditerranée, on a la chance d'avoir de l'eau assez claire. Et donc, à plus de 120 mètres, il reste quand même un peu de lumière. Donc, c'est pas noir, mais il y a une nuance de bleu très profonde, très sombre. Et on voit au fur et à mesure de la plongée. Moi, j'adore plonger les yeux ouverts. Au début de ma carrière, je plongeais les yeux fermés pour être dans un état de concentration, être vraiment recentré sur mes sensations. Et avec le temps, j'ai appris à être extrêmement concentré avec malgré tout les yeux ouverts, et ça me permet d'observer et de voir tous ces changements subtils dans les nuances de bleu. C'est fascinant, c'est pas grand chose, c'est du bleu qui évolue et pourtant c'est un spectacle incroyable.
Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces profondeurs en dehors de justement ces couleurs incroyables?
Et bien justement, c'est sur une plongée très profonde, en général on est loin du fond. Donc on descend le long d'un câble qui est notre guide. Et quand on arrive au bout de ce câble, si on a décidé d'aller à 120 mètres, ben, le câble s'arrête à 120 mètres. Et là, on est suspendu au milieu d'une espèce de sensation d'infini. Parce qu'on ne voit aucune frontière autour. Quand on y pense, c'est y a aucun endroit où on peut vivre ça. On se retrouve à un point où, en regardant tout autour, à 360 degrés, on voit la même chose, cette même unicité, avec des nuances de couleurs. Ça va, la surface est un peu plus claire, vers le fond, c'est sombre. Mais il n'y a aucune limite. Donc c'est comme si on pouvait expérimenter avec ses sens la notion de l'infini. Alors on sait que c'est pas infini. Je sais qu'il y a le fond à un moment donné, qu'il y a la surface quelque part, qu'il y a les bords tout autour. Mais c'est assez perturbant. Parce que si on dit on va compter jusqu'à l'infini, on n'arrive pas à prendre la mesure de ce que ça représente. Et là, à un moment donné, avec notre sens, avec la vue, on a une expérience de l'infini.
Et on imagine aussi une ivresse hein, de ces profondeurs. La narcose, c'est une réalité ?
Ah, la narcose est une réalité qui a longtemps été un problème. Parce que l'apnée est un sport de contrôle. On cherche à avoir la maîtrise de soi. Et la narcose, c'est un moment où on doit accepter qu'on perd le contrôle. Donc on perd un peu de lucidité, on perd la notion du temps, les notions d'espace. On peut avoir des visions, des hallucinations, c'est assez particulier. Et ça arrive vraiment dans les grandes profondeurs. Et ça m'a demandé beaucoup d'années pour comprendre la clé, finalement. Et la clé, c'est toujours la même chose, finalement. C'est cette acceptation et de lâcher prise. Je voulais prendre le contrôle de ces narcoses. Je voulais orienter mes visions pour qu'elles soient positives. Et en fait, c'était encore pire. C'est comme si chaque fois qu'on rêvait, on voulait orienter nos rêves. Alors qu'à un moment donné, il faut juste accepter de regarder et d'être un spectateur. Le jour où j'ai compris ça, quelle que soit l'atmosphère de mes narcoses, qu'elle soit agréable ou désagréable, ça ne m'a plus du tout gêné.
Mais il y a quand même ces risques hein, inhérents à la pratique sportive. Vous le disiez, si on plonge jusqu'à tel ou tel mètre, on peut encore contrôler. Mais là, le 10 septembre 2015, hein, lors d'une compétition de préparation au championnat du monde individuel, c'était à Chypre, votre objectif annoncé, c'était 129 mètres. Et puis, erreur des organisateurs, vous vous retrouvez à 139 mètres. Vous avez failli y rester.
Hein. Ah oui, c'était heureusement que j'étais bien entraîné et que finalement, c'est resté un incident mineur. Finalement, j'ai récupéré très vite. Mais oui, ça nous remet face à cette évidence que déjà, l'erreur est humaine et on peut n'avoir aucune certitude. On n'est pas dans un parc d'attractions et ça reste un monde, le monde naturel, le monde sauvage. Je pense que tous les montagnards, les alpinistes, les navigateurs, à un moment donné, expérimentent ce sentiment d'humilité qu'il faut avoir et cette vigilance qu'il faut constamment garder quand on fait ce genre d'activité.
Donc en tout cas, aujourd'hui, vous êtes l'apnéiste qui certainement est descendu le plus profond avec ses 139 mètres, mais ça n'a pas été reconnu, enfin validé, parce que quand vous êtes remonté, il y a eu cette syncope. Hein, ça, c'est la règle, la règle de cette discipline. Vous êtes aussi, Guillaume Néry, fasciné par la pesanteur et l'espace. Il y a un lien, on le sent, hein, vous le faites, entre les astronautes et les plongeurs. On va en parler dans un instant, mais je vous propose d'écouter la voix de Jean-François Clairvoy. Il s'exprimait ainsi dans l'émission L'Atelier de la Création, le 23 mai 2012.
Quand vous êtes dans l'espace, que la Terre et le Soleil sont dans le dos, que vous ne voyez pas la Lune et que vous ne voyez par le hublot que l'immensité noire de l'espace, avant d'éteindre les lumières éventuellement si vous voulez voir les étoiles, vous pouvez penser que vous êtes dans un gouffre. Vous savez pas où est la limite quand vous êtes face au noir. Dans mon premier vol, on dormait au 3-8. Il y en a 3 qui travaillaient pendant que 3 dormaient. Donc ceux qui dormaient, pour pas être dérangés par ceux qui travaillaient, on était dans une sorte de sarcophage, une boîte, une vraie boîte fermée de tous les côtés, qui faisait 80, 90 cm de large, 60 cm de haut et 2 mètres de long. C'est vraiment une boîte. C'est noir, vous flottez à l'intérieur. Vous savez pas si la limite elle est à 10 cm, à 1 mètre ou à l'infini. Quand vous êtes dans un gouffre, bon, vous êtes assis ou debout quelque part, donc vous sentez qu'il y a au moins une paroi sous vos fesses ou sous vos pieds. Mais si vous éteignez toutes les lumières, vous pouvez pas dire si la paroi du gouffre, elle est juste à 5 mètres, à 10 mètres, ou si c'est un gouffre qui fait des milliards de kilomètres de dimension. Donc en quelque sorte, nous sommes dans un gouffre dans l'espace, mais rapidement on voit la Terre, on voit le Soleil et on voit la vie. Donc on a conscience qu'on est en fait dans un espace qui nous a créés et qui nous récupérera quand on redeviendra poussière, comme disait Hubert Reeves.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
L'espace, c'est un rêve de môme, Guillaume Néry, être Jean-François Clairvoy, Jean-Luc Chrétien ou tant d'autres.
Ah, j'ai toujours été fasciné par ces extraordinaires aventures qu'ils ont pu vivre. J'ai toujours dit que Armstrong, je pense l'humain qui a vécu l'expérience, alors avec tous les autres, comme le pied sur la Lune, mais l'expérience la plus incroyable de l'histoire de notre humanité, et avoir cette chance de pouvoir observer la planète, notre planète, depuis si loin, comme cette espèce de globe de billes, toute bleue qui flotte au milieu de rien. Ça, c'est effectivement, ça a toujours été un rêve de pouvoir un jour expérimenter ça, donc ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, je suis en grande fascination par ce vécu.
Est-ce que vous avez vraiment fait acte de candidature auprès de la NASA ou du CNES pour partir sur un vol habité vers Mars?
Ah, la Mars. Alors, plus j'avance dans le temps, plus je me dis quand même, les premiers qui vont partir, ça va être sacrément engagé.
Ça risque. Hein. En tout cas, votre fascination, elle va jusqu'au point de posséder quand même un morceau de la météorite d'Allende tombée au Chili le 8 février 1969. Donc une chondrite carbonée, vieille de plus de 4,5 milliards d'années.
Tout à fait. C'est comme un espèce de talisman. C'est une espèce de témoignage dans la pierre qui me remet dans une autre échelle de temps. On vit avec des échelles de temps qui sont en rapport avec notre vie humaine. Et là, tout de suite, on est catapulté dans des autres dimensions. On est dans des échelles de temps de création de l'univers. L'univers a été créé à 13,8 milliards d'années, la météorite à 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire avant la création même du système solaire, avant la formation de la Terre en tout cas. Et donc d'avoir ce petit bout de caillou, c'est un symbolique qui est très très forte et qui me permet de... comme une espèce de grande bouffée d'air frais, une manière de prendre du recul et de sortir de cette pensée anthropocentrée. Et la symbolique me fait beaucoup de bien.
Cet univers en expansion, et il y a un homme qui compte dans votre philosophie de vie aussi, c'est l'astrophysicien Trinh Xuan Thuan. Je propose de l'écouter. Voici ce qu'il disait dans l'émission Le Grand Entretien sur France Inter, le 12 juin 2013.
Je prends toujours l'image de la nature qui joue du jazz. Parce que vous voyez le jazzman.
Le
jazzman, quand il joue du jazz, c'est pas comme une cantate de Bach où vous changez une note et tout s'écroule. tandis qu'il y a une ligne directrice, vous voyez, et le jazzman.
On peut improviser sur du jazz.
Voilà, exactement. Donc il y a des lois physiques sur lesquelles la nature brode. Et c'est comme ça qu'elle crée toute la complexité et la beauté du monde autour de nous. Parce que c'est quand même extraordinaire, pensez-vous. Qu'il y a seulement quelques forces physiques et quelques chiffres, ce qu'on appelle constantes physiques, des nombres dans la nature, qui détermine toutes les propriétés de l'univers. Et quand même, c'est extraordinaire qu'avec cette simplicité des lois, on fabrique toutes ces complexités, cette beauté du monde. Vous voyez, les galaxies, les roses, les montagnes, le beau coucher de soleil, les arcs-en-ciel, etc. C'est extraordinaire.
Trinh Xuan Thuan, concrètement, Guillaume Néry, qu'est-ce qu'il vous apporte dans votre justement discipline au quotidien?
Sa vision qui mêle à la fois le bouddhisme et son approche très scientifique est vraiment intéressante. Elle permet d'élever aussi un peu de rejoindre finalement le côté très carré cartésien de la science et aussi un côté spirituel qui, je trouve, du coup amène beaucoup de poésie à l'univers dans lequel on évolue, dans toutes ces questions que l'on se pose, auxquelles la science finalement ne répond pas encore complètement. Et voilà, la teintée de son approche spirituelle, je trouve que ça amène une grande bouffée d'air frais.
Donc sa vision bouddhiste vous apporte une sérénité finalement, vous aide à poursuivre les réflexions amorcées dans les profondeurs?
Alors, on est venu me voir plusieurs fois quand je partageais mes visions d'apnéiste et on m'a demandé « mais t'es bouddhiste » à plusieurs reprises. Donc je pense que je suis un bouddhiste qui s'ignore. Et je pense que l'expérience de l'apnée en grande profondeur amène à modifier notre rapport au monde, notre rapport à la vie et nous amène à finalement une conjonction avec certaines grandes valeurs du bouddhisme. Donc je peux pas dire je suis bouddhiste, mais en tout cas je pense qu'il y a pas mal de liens et cette spiritualité, je pense, se rapproche, ce qui se rapproche le plus de ma manière, ma philosophie de vie.
À quoi pensez-vous dans les profondeurs?
Je peux pas dire que je pense à rien, c'est pas possible de ne penser à rien, mais en tout cas mon mental est dans un état assez proche du repos et finalement on est dans un univers qui est hostile. Où on se retrouve finalement de manière instinctive dans un mode un peu de survie. Et en fait, le mode survie est celui qui va nous reconnecter à l'essentiel. On n'est pas dans la projection, et on est dans l'instinct et l'instant. C'est-à-dire qu'on est vraiment ici et maintenant, là. J'habite totalement mon corps, et j'habite chaque seconde qui passe. Les lois de la physique de la profondeur amènent un écrasement de ma matière. Le corps va vers l'intérieur, converge vers l'intérieur. Et du coup, il y a tout qui converge vers cette espèce de point profond et qui m'amène finalement à me recentrer. Et donc, c'est un peu ce qui se passe. Je suis à l'écoute de tout ça. Et en même temps, une forme de connexion charnelle, je dirais presque, avec l'eau et qui m'amène à me sentir comme une forme de connexion avec le grand tout, faisant totalement partie de l'univers. C'est fascinant. C'est pour ça que chaque plongée est une expérience forte.
En imaginant que avant chaque plongée, cela vous demande peut-être quelques heures de préparation qui précèdent justement la plongée.
Alors, je rentre pas en méditation transcendantale quelques heures avant. Au contraire, je suis sur le bateau, je suis totalement connecté avec mon entourage, avec les amis qui sont avec moi. Par contre, dès le matin, dès le moment où je sors de mon sommeil, c'est vrai que j'adopte une posture qui va être différente des autres journées, et j'essaie d'évoluer dans une forme de lenteur. Et cette lenteur dans la gestuelle, dans mon déplacement, m'amène à un état de calme, d'apaisement. Et puis par l'intermédiaire de la respiration, tout doucement, je vais basculer jusqu'à ces quelques minutes qui précèdent, où là vraiment, je rentre totalement dans ma plongée.
Alors cette sérénité, on va vous l'offrir aujourd'hui. Nous n'avons pas pu faire venir Trinh Suan Chuan, mais nous l'avons rencontré cette semaine. Hein, et ne pouvant être présent aujourd'hui, voici le message qu'il a choisi de vous laisser. Un regard jeté sur votre capacité à tutoyer les abysses.
Je dois avouer que, vous savez, j'aime bien notre surface terre, le plancher des vaches. Donc en fait, je suis content d'avoir mes télescopes et d'observer l'univers. Donc j'ai pas fait l'ambition donc ni d'aller dans l'espace ni d'aller en profondeur. Et je pense que une des choses qui me décourage justement, je pense que c'est la préparation qu'il faut, parce que pour faire quelque chose comme votre invité, il faut des années de préparation, et pour aller dans l'espace aussi la même chose. Je pense que mon temps est plus utilement utilisé à faire d'autres choses que de m'entraîner des années et peut-être pour ne même pas avoir de mission spatiale ou d'aller dans l'apnée. Donc, j'admire beaucoup ce que votre invité fait, bien sûr, Guillaume Néry. Et donc, je suis enchanté que mes paroles et ma vision du monde aient pu lui apporter quelque confort et l'aider donc à faire ce qu'il fait si bien et que personne d'autre ne peut faire. Donc, bravo à lui.
Guillaume Néry.
Joli cadeau, merci.
Vous ne l'avez jamais rencontré?
Non, jamais. C'est partie des personnes que j'aimerais croiser un jour pour échanger justement sur nos visions, de nos univers, de nos passions. Non, il ne faut pas qu'il se décourage. Avec sa manière de voir les choses, je pense qu'il peut vraiment arriver à ressentir une connexion avec l'eau. Alors évidemment, pas l'ambition de le faire devenir le prochain champion, mais en tout cas juste ressentir ce lien avec l'eau. Et puis du coup, ce qu'il rêve aussi d'aller dans l'espace, c'est la grande magie du monde aquatique, c'est qu'on peut expérimenter la pesanteur sous l'eau. Donc c'est deux en un, donc l'invitation est lancée.
Votre univers musical est important aussi, on imagine.
Oui, on parle toujours de l'univers, le monde du silence quand on est sous l'eau. Et or, on est assez loin du monde du silence. Il y a tout un tas de sons, de bruits qui sont très subtils. Et j'ai toujours eu quelques artistes comme ça qui m'amènent dans un état de bien-être, de connexion, d'harmonie assez forte. Et oui, la musique, tout en n'étant pas musicien, est importante pour moi, oui.
Et notamment Björk qui porte haut l'environnement, la défense justement de la planète.
Tout à fait. Björk, à partir du moment où je l'ai découverte, elle est allée au-delà de juste quelques notes qui me plaisent. Elle a un message qui est d'une profondeur. Elle arrive à retranscrire avec son langage, le langage des sons. Elle a même inventé, et c'est ça que j'admire chez cette artiste, c'est que elle a inventé une autre forme de musique. Elle a créé des sons, elle a créé des instruments pour arriver à retranscrire au mieux la force de l'élément. Et moi, dans chacune de ces, voilà, de ces chansons, je ressens la puissance de l'élément, je pense, inspiré de ses origines islandaises, cette terre, ce bout de caillou qui est au milieu des éléments, c'est rude, c'est hostile, et bien elle arrive parfaitement à le traduire avec sa musique.
Bachelorette, c'est la suite de notre émission de Cause à effet sur France Culture, consacrée aujourd'hui à l'apnéiste Guillaume Néry, celui que l'on appelle l'homme qui marche sous l'eau, parti à la rencontre des peuples de l'océan et que l'on retrouve dans le livre Guillaume Néry à plein souffle, livre édité chez Glénat, et puis dans le film One Breath Around the World, un livre réalisé avec le photographe Franck Séguin et le film réalisé avec votre compagne Julie Gauthier, le tout pour sensibiliser au monde sous-marin et à la protection de la planète. Alors, ces rencontres que vous avez pu vivre, notamment donc pour ces dernières réalisations, Guillaume Néry, est-ce que elles vous ont fait découvrir aussi quelque chose d'autre ?
Alors, ces rencontres, Notamment, si on doit revenir sur les peuples de l'eau, elles m'ont mis en face aussi d'une réalité, parce que les peuples de l'eau, j'étais tombé sur des images où on les voyait évoluer sous l'eau avec de manière extrêmement naturelle, marcher au fond de l'eau avec un fusil en bois, tels des chasseurs au milieu d'une forêt. Et c'était une espèce de rêve d'un jour pouvoir rencontrer vraiment les peuples originels. Ceux qui ont commencé à faire ce que l'on fait aujourd'hui, qui l'ont fait par nécessité pendant des milliers d'années. Et puis, on est allé les rencontrer et j'ai été assez triste de me rendre compte qu'ils subissent de plein fouet l'impact de l'homme occidental. Ils sont victimes collatérales de notre avidité pour les océans, de la surpêche. Ils sont marginalisés là où ils vivent. Ils sont considérés comme une sous-espèce, enfin c'est terrible, hein. Et donc du coup on les a vus et ça a été assez choquant, bouleversant de voir cohabiter un hôtel 3, 4, 5 étoiles et puis à 300 mètres de là un village taudis de Bajao qui vont en mer et qui risquent leur vie pour aller ramasser les quelques minuscules poissons parce que la mer a été vidée. Et donc du coup c'est un peu l'envers du conte magnifique que on peut entendre de l'autre côté.
C'est ce qui vous donne envie de réunir l'homme et la nature encore plus, de les réconcilier, de montrer qu'ils ont intérêt à faire alliance aussi.
Oui, bah déjà à partir du constat qu'on doit faire alliance entre l'homme et la nature, c'est déjà exclure l'homme de la nature. Et on ne devrait pas. On fait partie totalement de cet environnement. Je pense que c'est pour ça que j'ai cette fascination par la vision qu'ont pu avoir les astronautes. À un moment donné, quand on s'extrait et qu'on regarde une photo de la Terre qui flotte, on se rend compte que toute forme de vie, tout est là. Donc l'homme fait partie des continents, les océans, tout ce que l'on connaît de vivant, c'est là, c'est ici. Donc effectivement, il est plus qu'urgent que, à un moment donné, à réarriver à intégrer à la même échelle, finalement, remettre de l'horizontalité là-dedans et retrouver cette forme d'harmonie. Mais bon, c'est pas gagné.
Vous avez des lieux de prédilection, hein, je crois, la Réunion, Tahiti, alors l'arrière-pays Nice, on en a parlé, le Mercantour, et le Japon.
Et le Japon, ouais, ça a été un des premiers grands voyages qui m'a totalement bouleversé, parce que c'est une autre culture. C'est aussi, enfin, j'ai grandi moi à l'époque des mangas. Au début, il y avait des débuts des mangas en France, et bon, tous les enfants regardaient les dessins animés, donc c'était un peu une espèce de mythe comme ça lointain, une réalité qui existait ailleurs. Et puis en mettant les pieds au Japon, je me suis retrouvé totalement dans les mangas que je regardais plus jeune, et c'est un pays qui est allé dans la modernité, mais qui a conserver des traditions très très fortes avec une nature qui est exceptionnelle, qui n'épargne pas les humains, hein. Ils sont vraiment victimes de nombreuses catastrophes.
Ah oui, on pense à Fukushima, bien sûr.
Alors là, pour le coup, notamment. Fukushima, c'est une catastrophe où l'humain est responsable, hein, mais les tremblements de terre, par exemple, frappent tous ces événements naturels. C'est vrai qu'il n'épargne assez peu ce peuple japon qui est toujours là, qui est très résilient. Au niveau de sa géographie aussi, c'est assez fascinant parce que voilà, ils sont c'est la dernière île avant le Pacifique, à l'extrémité de ce grand continent eurasiatique. Et puis ça part de Hokkaido, c'est quasiment la Sibérie, jusqu'à Okinawa, les îles tropicales d'Okinawa. Et puis au milieu, il y a toutes ces nuances de saisons, de température,
et
de climat.
Onsen.
Et les onsen qui font partie de... Donc les onsen, c'est les bains, les sources d'eau chaude dans lesquelles les Japonais vont se baigner après le travail.
Et potentiellement thérapeutique, hein, d'ailleurs.
Et c'est culturel. Et moi, quand je suis là-bas, tous les jours, on va se mettre dans des petits onsen, vivre un peu la vie locale. Ouais, c'est un pays qui est assez merveilleux.
Il est temps de faire entrer notre invité surprise dont vous allez d'abord découvrir la voix.
Arpenter la vallée des requins, encore et encore. Comme si l'aventure se nourrissait de routine. Percer le mystère des lieux, et puis surtout, tenir ses promesses faites à l'enfance. Quand j'étais gamin, je ne jouais pas aux cow-boys et aux indiens, je jouais aux aventures du commandant Cousteau. Et finalement, aujourd'hui, à 40 ans passés, le jeu est devenu un métier, mais le rêve est resté le même. Tenter de résoudre des énigmes du monde sous-marin. Il me semble que le nombre de requins varie au cours de l'année. Mais quel est le signal qui les conduit vers la passe?
Et cet invité surprise qui rentre dans le studio est lui aussi un adepte des profondeurs. Vous connaissez tous les, je crois. Bonjour Laurent Balesta.
Un petit peu, ouais.
Alors, je précise pour nos auditeurs, Laurent Balesta, que vous êtes photographe naturaliste, plongeur professionnel, biologiste de formation, un spécialiste de l'écologie méditerranéenne, pionnier des photos réalisées en plongée profonde, et tout juste sorti un coffret DVD Blu-ray, 700 requins dans la nuit, réalisé avec Luc Maresco, et qui n'est pas encore complètement disponible. DVD Blu-ray sort le 5 février, mais exceptionnellement disponible sur arteboutique.com en exclusivité, et un livre.
Oui, un livre qui porte le même nom, 700 requins dans la nuit. Résultat des 5 années passées là-bas à essayer de saisir ce phénomène qui a lieu tous les ans, mais qui est très rapide, qui échappe à l'œil humain. Ces chasses nocturnes des requins qui vont à une vitesse folle et cette ponte des mérous qui, elle, va durer 30 minutes dans l'année entière. Alors voilà, c'est difficile à saisir et du coup, la photographie prend toute sa dimension.
5 années pour saisir justement les mystères de ces requins. 5 années, c'était aussi le cas pour le Sélacanthe.
Ouais, ça s'est fait sur 5 années, à 3 voyages sur 5 années exactement.
Qu'est-ce qui vous pousse, Laurent Balesta, dans cette quête permanente de découverte au bout du monde, vous concrètement?
D'abord, le bout du monde ne m'intéresse pas forcément. Hein. Moi, il y a 3 enjeux à chaque fois que j'essaie de mettre en place. Il y a un enjeu scientifique. Parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, la conservation doit être une priorité. Donc il faut qu'il y ait un enjeu scientifique, parce que ça, la connaissance aide à la protection. Donc, un enjeu scientifique. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y mettre un défi de plongée aussi. Parce que d'abord, ce défi de plongée, souvent, va aider à répondre à cet enjeu scientifique. Et puis derrière, mais c'est peut-être devant, le moteur de tout ça, c'est la promesse d'image. Parce que ce qui me fait peut-être me lever le matin, ou en tout cas qui me donne l'énergie pour monter ces expéditions qui sont parfois très lourdes à organiser, et ben c'est peut-être tout simplement d'avoir le privilège de me retrouver dans cette situation à un moment donné, sous la mer, d'être dans la position de pouvoir faire de la photographie inédite, de la photographie animalière qui n'a pas été encore faite. Et voilà, donc il y a ces 3 valeurs, l'enjeu scientifique, le défi de plongée, la promesse d'image. Et quand j'arrive à avoir une idée qui rassemble bien ces 3 valeurs, eh ben c'est une nouvelle expédition qui commence.
Et donc sensibiliser le grand public et parvenir aussi à donner une expertise environnementale poussée pouvant éclairer les scientifiques. Vous travaillez avec des scientifiques?
Oui, je suis scientifique de formation déjà, et puis à chaque nouvelle thématique, je m'encadre des spécialistes du sujet, s'ils existent en tout cas, c'est pas toujours le cas, et puis je les amène avec moi et on essaie de... On a la chance, on est au 3e millénaire, mais c'est un lieu commun de dire ça, mais c'est la réalité. Il y a vraiment énormément de choses à savoir. Prenez des animaux qu'on pourrait croire hyper communs. Le grand requin blanc. Alors, tout le monde a déjà vu un grand requin blanc, là, provoqué le plus souvent par du nourrissage d'ailleurs, mais enfin, peu importe. Et bien, sur ce grand requin blanc qu'on croit connaître, on ne sait rien. Personne ne l'a jamais vu se reproduire, s'accoupler. Personne n'a jamais vu une naissance. Prenez la baleine à bosse, identique. On n'a jamais vu une naissance. Est-ce qu'on peut dire la même chose avec des animaux communs terrestres? Un éléphant, un lion, ça on a tout vu depuis que la photographie et le film existent.
Mais par contre, on pense aux anguilles, par exemple, et la mer des Sargasses.
Oui, voilà. Alors, voilà, c'est dès qu'on touche aux limites d'exploration de l'homme. Et donc ça, c'est très excitant, parce que pour répondre à ces mystères scientifiques, souvent, il y a un vrai challenge humain de repousser un peu les limites techniques de l'exploration sous-marine. Et ça, c'est très excitant. Donc, plonger plus profond, plonger plus longtemps, c'est toujours ça hein, d'ailleurs, hein, pouvoir rester plus longtemps et plus loin.
Qu'est-ce qui vous rassemble et qu'est-ce qui vous distingue tous les deux, Guillaume Néry?
Il est obligé d'avoir des bouteilles, donc bon, forcément.
Tu sais très bien que j'ai pas des bouteilles, j'ai un recycleur, je ne fais pas de bulles, moi non plus.
Recycleur, dites-nous quand même comment ça marche
non,
pour ceux qui ne sauraient
disons
pas.
Disons qu'il y a des scaphandres aujourd'hui, un scaphandre recycleur, c'est-à-dire qu'on a dans le dos tout un appareillage qui fait que l'expiration est récupérée, nettoyée, et donc il n'y a pas d'émission de bulles. Ça a 2 avantages. D'abord, on gagne énormément en autonomie. On a jusqu'à 8, 9, 10 heures d'autonomie devant soi. Et on ne fait pas de bulles, donc pas de bruit, donc on est quand même extrêmement discret et silencieux. Voilà. Après, évidemment, il y a des contraintes, c'est la lourdeur de tout ça, c'est des gros équipements, c'est toujours très compliqué. Et moi, je serais toujours un peu jaloux de l'approche de l'apnéiste pure, simple, etc. Par contre, moi, je reste pas 7 minutes, je reste 24 heures.
Mais ce que Laurent ne dit pas, c'est qu'on a plongé ensemble à La Réunion et qu'il est sacrément doué. Ah, si. Combien t'es allé à 40, plus de 40 mètres, l'air de rien comme ça.
Ah, mais j'ai failli me noyer, ça, il le sait pas. C'était par fierté, j'ai voulu tenir.
Non, je pense qu'on est tous les deux fascinés par cette idée d'aller explorer, mais chacun à notre manière.
Et de se mettre en harmonie avec Gaïa, hein, la terre-mère que la société industrielle malmène.
Ben oui, et puis avec toutes ces idées reçues, quand je suis devant cette meute de requins la nuit, là, moi le premier, je me dis, mais même moi j'ai eu peur au début. Puis petit à petit, on a compris qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Et je me dis, ça nous fait peur alors que leur existence même devrait nous rassurer. Parce que c'est précisément le jour où cette nature sauvage ne sera plus que là, il faudra commencer à avoir peur. Et je m'en suis vraiment rendu compte la dernière année à Fakarava. Cette idée m'est venue vraiment, c'était évident. On a eu droit à un spectacle incroyable auquel je m'attendais pas. Autant la ponte des Mérous, on est allé la chercher. Et on a eu droit à la ponte des chirurgiens bagnards, un autre petit poisson qui se réunit soudainement et qui pondent et puis c'est terminé. Et là, on avait tout. Dans mon champ de vision, j'avais ces milliers de poissons qui donnaient la vie, ces requins qui essayaient de la prendre, tout ça dans un soleil couchant juste sous la surface. C'était sublime. Et c'est là que je me suis dit, mais comment j'ai pu avoir peur un jour de ça, quoi ? Comment on peut avoir peur de la vie sauvage ? Alors que son existence devrait juste nous rassurer. C'est leur disparition qui devrait nous faire peur.
Laurent Balesta, vous poussez loin aussi la quête de technique hein, pour parvenir à aller plus loin, plus profond, pour explorer, pour comprendre tous ces mystères, et il en reste hein, les mystères de l'océan. Je vous propose de vous retrouver dans un reportage qui a été diffusé sur France 3 Provence Alpes Côte d'Azur le 22 octobre 2018.
Ça fait tellement d'années que j'y pense, et là on va faire notre première tentative, en tout cas notre premier essai, où on va descendre avec une tourelle de plongée à saturation, mais pour sortir en autonomie avec nos scaphandres recycleurs. Alors c'est ça qui est nouveau, c'est ce mariage de ces deux techniques de plongée qui depuis toujours se sont ignorées en fait. En plongée, la patience, c'est pas une qualité, c'est un luxe. J'ai pris le temps de photographier tout en détail la robe nuptiale du labre coquette. Rien d'exceptionnel. Mais jusqu'à présent, j'avais toujours volé son image.
Laurent Balesta, expliquez-nous donc ce que vous essayez de faire hein, techniquement. Parce qu'on comprend bien que pour aller plus loin, pour vivre à la fois ces expériences en osmose avec l'océan, l'harmonie, Gaïa, la Terre, mais aller comprendre, aller découvrir et faire science, il faut aussi être aidé techniquement.
Oui. Il faut se poser les bonnes questions. Quel est le problème quand on plonge profond, quand on veut explorer profond ? Eh ben, c'est la remontée. Le problème, c'est la remontée. Donc la solution, elle est toute simple. Ben, faut pas remonter. Faut plus remonter. Et le principe de la plongée à saturation, c'est ça. C'est-à-dire que on va descendre, explorer jusqu'à plus soif, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie dans les caméras, jusqu'à ce que ou qu'on ait trop froid, par exemple. Et puis là, au lieu de devoir réaliser des heures et des heures et des heures de paliers, qui sont épuisantes, agaçantes, déprimantes, enfin tout ce qu'on veut, eh bien, on ne va pas remonter, on va rentrer dans un caisson pressurisé, fermé. Alors ce caisson, physiquement, il va remonter à la surface, oui, mais physiologiquement, on ne remonte pas. On reste à la pression du fond. Ensuite, on est connecté à un caisson de vie qui est un tout petit peu plus grand. C'est le luxe, 5 mètres carrés pour 4 plongeurs. Voilà. Et ben là, on se restaure, on mange, on dort. Et dès qu'on est prêt, on repart. Et on n'a plus à se soucier du temps de plongée, qui est quand même la contrainte des plongeurs. Il faut bien comprendre que le temps sous l'eau, ça se compte en minutes. Quand on est un naturaliste, allez dire à un botaniste qu'il a que 23 minutes pour aller regarder des oiseaux, qu'il a que 47 minutes parce que c'est un peu plus haut en altitude, ou je ne sais. Et nous, c'est un peu ça, ce problème. Donc c'est une grande frustration depuis toujours, en vérité. Et j'avais depuis longtemps voulu trouver une solution. Et la solution, c'est ça. On est allé dérober, voler les moyens de la plongée industrielle, qui normalement est là pour aller exploiter la ressource. Et ben, on a détourné ces moyens pour faire de l'exploration cette fois-ci.
Guillaume Néry, est-ce que vous avez imaginé peut-être un jour investir le Dean's Blue Hole aux Bahamas avec justement Laurent Balesta et avec ces moyens techniques-là?
On en avait parlé.
Ça fait un moment qu'on se parle et qu'on se dit faut trouver quelque chose. Au début, je m'étais dit j'aimerais bien aller voir le Sélacanthe en apnée. Mais je pense que c'est injouable. Quand il m'a raconté les conditions dans lesquelles ils l'ont trouvé au milieu de l'océan, dans la mer démontée, enfin.
Si c'était apnée, juste la profondeur, t'en es capable. La profondeur elle-même, t'en es capable. Mais c'est les conditions de mer là-bas, l'incertitude de tomber au bon endroit, tout ça, ça rend l'exercice un peu utopique.
Non, mais avec la technique, Guillaume Néry, à un moment peut-être accepter ça aussi.
Ah oui, alors là, oui, effectivement, là on change de dimension, parce que là où Laurent parlait de problèmes de minutes, moi c'est des problèmes de secondes. Donc on est même dans une autre échelle, hein. Alors ça rend ces secondes très intenses, mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'être dans l'observation. C'est pour ça qu'on dit toujours que l'apnée c'est un voyage intérieur, parce que les secondes que l'on a nous permettent pas de réellement avoir le temps de l'observation extérieure.
Ce qu'il faudrait, c'est positionner la tourelle juste au-dessus de la grotte des Sélacanthes, et là tu sortirais en apnée depuis la tourelle. Si la tourelle est 20 mètres au-dessus de la grotte, c'est comme une plongée à 20 mètres pour toi. Ouais, c'est pas simple.
Qu'est-ce qui vous horripile le plus aujourd'hui? Bon, on voit bien qu'il y a des querelles politiques sur fond de réchauffement climatique, l'état de la biodiversité. On va pas faire le tableau de tout ce qui se passe, mais vous êtes quand même aussi dans ce travail de prise de conscience, de témoin, hein, de notre environnement et qui évolue. Laurent Balesta, vous avez mené un travail en Antarctique avec des explorations profondes sous la banquise. Donc aujourd'hui, voilà votre message. Qu'est-ce qui vous horripile le plus?
C'est la rupture, en fait, pour moi, je crois. La rupture avec cette nature. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on en ait peur, alors qu'on en a besoin. C'est quand même un comble. On a peur de la nature sauvage alors qu'on en a besoin. Et je pense que le plus déprimant, c'est cette coupure absolue, qui crée des paradoxes, d'ailleurs. Après, on fait sa semaine au sport d'hiver, comme un besoin irrationnel, mais au fond, c'est peut-être un besoin de nature, tout simplement, même si on l'interprète mal. Et puis, on a besoin de sa semaine au bord de la mer. Mais c'est peut-être aussi un besoin de nature au fond de soi. Et alors on s'étonne, c'est génial, c'est extraordinaire. C'est juste normal, quoi. En fait, il y a déjà ce premier décalage, ce lien qui est un peu coupé, qu'il faudrait reconstituer. Voilà. Alors, j'ai la naïveté de croire qu'avec de la photographie, avec des films documentaires, on peut aider à recréer le lien. Enfin, ça m'arrange bien de dire ça. Ça me permet de trouver les moyens de vivre ma vie.
Guillaume Néry. Vos rêves, à vous, est-ce que, vous avez dit, hein, dans l'apnée, ce n'est pas le défi sportif qui m'intéresse, c'est d'aller voir aux frontières du connu s'il y a un après. Est-ce que, possiblement, l'envie de reprendre la compétition, c'est dans vos rêves ou vos ambitions?
Oh non, c'est pas un rêve. J'ai déjà repris l'année dernière. J'ai fait une plongée lors d'une petite compétition chez moi à Nice. Mais le mot compétition, il inclut... beaucoup de choses qui ne sont pas révélateurs de ce que représente pour moi l'apnée en profondeur. Compétition, ça veut dire être face aux autres, battre les autres, alors que pour moi la compétition c'est juste un moment, un rassemblement. On parlait tout à l'heure de communauté, de famille. Pour moi la compétition c'est un rassemblement de mecs qui partagent la passion. Et donc j'ai dans cette plongée à 105 mètres en maillot de bain, c'était une expérience. Donc refaire des expériences de cette sorte, bien sûr, je pense que j'ai encore beaucoup de temps et d'énergie et d'envie.
Merci à tous les deux, on vous suivra bien sûr dans vos aventures respectives. Je rappelle le titre de vos derniers livres. Guillaume Néry, À bout de souffle, un ouvrage réalisé avec le photographe Franck Séguin et publié chez Glénat. Laurent Balesta, le livre 700 requins dans la nuit et le coffret DVD Blu-ray du même titre. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les informations, les liens sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Réécoute et téléchargement sont également à votre disposition. Samedi prochain, c'est Raphaël Donjean qui nous livrera ses projets d'expédition solaire, rejoint en seconde partie d'émission par un autre aventurier, Jean-Louis Etienne. Belle matinée à tous, bon réveil pour ceux qui nous rejoignent et tout de suite, je vous laisse en compagnie de l'équipe de la rédaction de France Culture pour le journal.